Chapitre 12. Lesca jeta un regard d'envie sur l'étude. La première salle était séparée du public par une balustrade, comme une chambre royale. Lesca examinait à la dérobée les employés assis derrière de petites tables, les murs tapissés de casiers cartonnés. Il pensa « C'est une bonne affaire ». Le premier clerc occupait le centre de cette salle. Il était assis derrière un vrai bureau. Il demanda un renseignement. Un employé lui répondit aussitôt. « J'aurais mieux fait de me diriger dans cette voie », se dit Lesca. Il s'approcha d'une fenêtre, obscurcie par de la poussière délayée. Elle donnait sur une cour encombrée de triporteurs, de voitures à bras. Une petite entreprise de transport garait là son matériel. Il suffit de sortir un peu du train-train quotidien pour s'apercevoir que les gens sont ingénieux, qu'ils gagnent de l'argent, pensa-t-il. Il avait écrit son nom sur une feuille de calepin. Il attendait. De temps en temps, il avait un tic. On eût dit que, sans vouloir se servir de sa main, il cherchait à chasser une mouche qui se promenait près de son œil. En réalité, ce n'était pas tout à fait un vrai tic. Il dépendait de Lesca de s'en débarrasser, comme de tous ceux qu'il avait aux narines, aux lèvres, aux épaules. Une étroite banquette se trouvait entre deux fenêtres. Lesca s'approcha de la balustrade et, se penchant par-dessus, à voix basse, sur un ton des plus confidentiels, comme s'il craignait d'être entendu par d'autres personnes, il demanda à un employé s'il pouvait se permettre de prendre la liberté de s'asseoir, en attendant que monsieur le notaire lui fasse l'honneur de bien vouloir le recevoir. L'employé regarda Lesca en se demandant si celui-ci ne se moquait pas de lui. L'aspect du client dut le rassurer, car il lui fit entendre, par un petit geste protecteur, qu'il pouvait s'asseoir. Lesca remercia plusieurs fois en s'inclinant. Il s'excusait d'avoir osé poser cette question, mais il n'était pas en très bonne santé. On pouvait le faire attendre longtemps, ce qu'il comprenait très bien, car il n'était pas un client important, etc. Il s'assit tout au bout de la banquette, posa son chapeau sur ses jambes jointes et, les yeux fixes, ne bougea plus. « Vous pouvez entrer, » dit l'employé au bout de quelques minutes. Lesca ne répondit pas. Il faisait semblant de ne pas croire que c'était à lui qu'on parlait déjà. « Hé, là-bas, monsieur, on vous attend !» Lesca se leva d'un bond, prit une expression affolée, et, comme s'il avait perdu son sang-froid devant l'importance de l'honneur qu'on lui faisait, courut vers la porte de sortie au lieu de se diriger vers celle du bureau de maître Donghi. « Vous vous trompez de porte !» cria l'employé. Lesca s'arrêta net. Il jeta de tous côtés un regard suppliant. « Vite, vite !» semblait dire, « qu'on me montre le chemin, afin que je ne fasse pas attendre le patron, le grand patron. »« C'est cette porte !» dit encore l'employé. Tout le monde riait. Lesca, qui s'inclinait à chaque instant pour remercier, alla frapper à la porte. « Entrez !» cria une voix aigrelette de l'intérieur. « Eh bien, entrez donc !» firent les employés en le voyant rester immobile. Dès qu'il eut ouvert la porte, avant même d'avoir fait un pas, Lesca se plia littéralement en deux. Le notaire, étonné, se leva. Lesca s'avança en balançant cérémonieusement son chapeau, comme si, chaque fois, il achevait un grand salut. « Je m'excuse infiniment, monsieur le notaire, de vous déranger. Je sais que les instants d'un homme comme vous sont précieux. Je ne resterai que quelques minutes. » Le notaire était un petit homme, usé et sec. Quelques cheveux de différents gris collés sur le crâne, pas seulement des rides, mais aussi des petites parties de visage comme mortes, complètement ratatinées, des dents fausses parfaitement imitées mais sans éclat, une belle et grande alliance à l'auriculaire, tels étaient les détails qui frappaient au premier abord. Depuis quelques minutes, le bruit d'un démarreur montait de la cour. L'auto ne partait pas. Le notaire avait chaque fois un geste d'agacement. « Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur, » dit-il en désignant l'un des deux fauteuils de cuir qui faisaient face à son bureau et où s'asseyaient d'habitude le mari et la femme. Lesca s'assit sur le bord d'un de ses fauteuils et, pour parler, se pencha en avant comme s'il voulait être le plus près possible du notaire et qu'il était effrayé de parler à haute voix. Je suis un ami d'une de vos clientes, Madame Maze, murmura Lesca. Vous pouvez parler plus fort, monsieur, dit Maître Donghi. Personne ne vous entend. Oh, merci, monsieur le notaire. Quand je dis un ami, je me fais peut-être un trop grand honneur, continua Lesca en se retournant pour voir par où il pourrait tirer le fauteuil pour se rapprocher. Mais c'était un gros meuble arrondi de partout, n'offrant aucune saillie. Madame Maze m'a chargé, si on peut dire, d'une démarche auprès de vous. Pour être plus exact, elle ne m'en a pas chargé. Elle a été d'accord pour que je la fasse. Mais permettez-moi de me présenter. Je vois que vous regardez le papier sur lequel je me suis permis d'écrire mon nom. Je me doute qu'il ne vous dit rien. Je suis un petit médecin de quartier. Je ne le suis même plus, car il y a plus de 30 ans que je n'exerce plus. J'ai été malade. Je vis surtout pour l'amitié. Je connais Madame Maze depuis des années. C'est pourquoi, monsieur le notaire, vous me voyez devant vous. Je vous disais donc que Madame Maze approuvait la démarche que je fais en ce moment auprès de vous. Vous n'avez eu, monsieur le notaire, que des rapports professionnels avec elle. Je m'excuse encore une fois de vous faire perdre votre temps, mais pour comprendre le sens de ma démarche, il est nécessaire que vous connaissiez tous les petits détails que je vous expose. Madame Maze est une femme qui a d'immenses qualités et qui a un défaut qui, je m'empresse de vous le dire, n'en est peut-être pas un à vos yeux. Elle est d'une fierté maladive. Puisque vous vous êtes occupé de ses intérêts, vous vous rappelez, si toutefois vous pouvez vous rappeler un cas particulier et si peu important au milieu de toutes les affaires considérables dont vous avez la charge, vous vous rappelez qu'elle a quitté son mari, un homme de cœur, c'est vrai, mais un homme possédé du démon des femmes, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens. Je crois que c'est vous-même d'ailleurs qui avez rédigé le contrat. Elle l'a donc quitté il y a une quinzaine d'années, et avec une fierté à laquelle je rends hommage tout en la désapprouvant, elle a préféré abandonner tout ce qui lui appartenait plutôt que d'avoir le moindre rapport avec son mari, même par personne interposée. Lesca s'interrompit. Le démon des femmes, la séparation de biens, le contrat, l'hommage, murmura-t-il. Grotesque! Quelle honte! Son œil se mit à trembler. Je n'ai pas à juger le mari, monsieur le notaire, continua Lesca. Je ne le connais pas. Je ne tiens pas à le connaître. Mais je crois que vous serez de mon avis. En une telle conjoncture, vous auriez agi comme moi, vous n'auriez pas attendu qu'on vous le demande, vous auriez fait parvenir de vous-même à cette femme tout ce qui lui appartenait. C'était le geste naturel d'un galant homme. Lesca s'interrompit encore. Quelle honte! Quelle honte! Comment ai-je pu tomber si bas? Il n'en a rien fait, poursuivit Lesca. Je vous le répète, je n'ai pas à le juger. Comme il est naturel, Madame Maze lui cherche des excuses. Elle prétend que ce n'est que de la négligence de sa part. Je le crois aussi. Il est riche. Le bien de Madame Maze ne peut que lui paraître insignifiant. À l'instant où ce bien lui sera réclamé, il sera le premier à s'étonner de sa conduite. Maintenant, monsieur le notaire, daignez m'écouter attentivement. Je vous demanderai tout à l'heure ce que vous pensez de ma façon d'agir. Voici ce que j'ai fait. J'ai dit à Madame Maze qu'elle avait tort. Elle n'est pas riche. Elle travaille pour gagner sa vie. Je l'ai persuadée finalement de réclamer son bien. Voilà ce que j'ai fait. Ai-je bien agi ? Je souffre de me trouver ainsi devant vous. Ma position est délicate. Lesca prit son mouchoir, frotta ses lèvres sur lesquelles s'était formée une sorte de croûte molle. Quelle honte ! Quelle comédie ! Je suis confus, monsieur le notaire, continua-t-il, de vous obliger. Oh, excusez-moi, le mot m'a échappé. Je suis confus de vous mettre dans l'obligation de réfléchir à un cas particulier si peu intéressant. Ai-je mal agi? Au fond, cela m'est égal. Je trouve comme vous que la conduite de Madame Maze ne manque pas d'une certaine grandeur. Et moi, le vieil ami, j'use de mon influence pour ramener cette femme dans la réalité. Ce n'est pas très beau, n'est-ce pas? Le notaire lissa ses sourcils du bout de ses doigts. Je trouve, dit-il d'une voix sèche, que ce que vous avez fait est tout à fait naturel. « Oh, merci !»« Ne me remerciez pas. Vous me demandez mon opinion, je vous la donne. C'est tout. Maintenant, il faut que je vous pose une question à mon tour. Est-ce que vous êtes venu me voir pour savoir ce que je pensais de cette affaire ou pour me demander de régulariser cette situation ?»« Pour vous demander, si vous étiez d'accord, bien entendu, de la régulariser. » »« Très bien. » Dans ce cas, je tiens à vous dire tout de suite que je ne peux absolument rien faire sans un mot de Madame Mars elle-même. Lescar rougit. Il voulut parler malgré cela. Mais il entendait chaque mot comme si un autre les prononçait. Il perdit le fil de sa pensée. Il balbutia quelques paroles sans suite. « Je suis tout à fait de votre avis, » dit le notaire en faisant semblant de ne rien remarquer. « Naturellement, naturellement, » dit enfin Lesca. « Je venais justement vous annoncer la visite de Madame Maz. »« Il n'est pas nécessaire qu'elle se dérange. »« Oui, oui, je sais. D'ailleurs, mon rôle à moi, mon modeste rôle, est terminé. J'ai fait tout ce que j'ai pu, comme je l'ai toujours fait dans ma vie. Je ne peux pas faire plus, n'est-ce pas ?»« Une simple lettre suffira, » dit Maître Donghi. « Vous êtes trop bon, monsieur le notaire. Dès que j'aurai un modèle, je ferai le nécessaire. » Lesca se leva. Il recommença ses courbettes. Mais quelque chose en lui était glacé. Il remarqua que le notaire ne fit que le simulacre de leur accompagner. Il traversa la grande salle où se trouvaient les employés en montrant avec le chapeau qu'il tenait à la main la porte de sortie pour qu'on comprît qu'il s'en allait, qu'il ne dérangerait pas plus longtemps. Dans le large escalier de pierre, où il y avait autant de courants d'air que dans la rue et qui était éclairé, comme la rue, par des becs de gaz tremblants, il s'arrêta, se redressa. « Quel imbécile » dit-il à haute voix. « Quel crétin ! Est-il possible qu'il existe des gens aussi bêtes ?» Il descendit quelques marches. « Et moi aussi, je suis un imbécile !» Une fois dehors, il entra dans le premier café et prit un verre d'alcool. Toujours la même chose, toujours les mêmes difficultés, les mêmes chinoiseries. Rien ne marche comme on le désire, comme on le prévoit. J'aurais dû dire, je viens de la part de Madame Maz. Elle vous prie de faire ceci, cela. J'ai été idiot. J'avais peur. Peur de quoi? Pas de lui, certainement, mais peur d'avoir l'air d'un escroc, peur qu'il ne se dise, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il connaît ma cliente? Qu'est-ce qui me prouve qu'il est chargé par elle de venir me voir? Et puis, j'avais honte aussi. J'avais honte de faire une pareille démarche. J'en ai assez, assez, assez. C'est fini. Gabrielle fera ce qu'elle voudra. Je ne veux plus être mêlée à cette histoire. Je dis ça à chaque fois. Cette fois, c'est la dernière. Quand il rentra, il trouva Émilie en train d'écrire à son fils. En cours de route, il avait encore pensé à cette visite au notaire. Il s'est peut-être aperçu que je me moquais de lui. J'ai peut-être exagéré. Il s'est douté de quelque chose. Je n'avais pas l'air sérieux. Enfin, en trois mots, j'ai été maladroit comme toujours. N'écris pas, Émilie, je t'en prie, ce n'est pas gentil. On dirait que je n'existe pas pour toi. Il prononça ces mots avec douceur. Il avait l'air d'un homme qu'une grande déception a rendu meilleur. Il semblait dire « Je comprends maintenant tous les torts que j'ai envers toi. » Elle jeta sur lui le regard d'une personne qu'on dérange. Elle semblait dire « Tu pourrais avoir la délicatesse de choisir un autre moment pour jouer la comédie. » Le pauvre Cachecol, qui s'en allait par mètre dès qu'on voulait casser un bout de laine qui dépassait, entourait le cou de Lesca. Il ne l'avait pas ôté. Il s'assit en face de sa sœur. « Émilie, » dit-il. « Quoi encore ? Je voudrais te parler, Émilie. J'ai quelque chose de très important à te dire. »« Oui, je sais, de toujours très important. » »« Laisse-moi finir, mais avant, je voudrais que tu fasses un effort pour me comprendre. Je suis ton frère. »« Oh, mon Dieu !» s'écria Émilie. « Je ne suis pas un inconnu, je ne suis pas un ennemi. C'est ça que tu devrais comprendre. Si tu le comprenais, tu m'écouterais. »« Je t'écoute. Tu vois, j'interromps ma lettre. » Elle prit une attitude résignée. Il la regarda comme un infirme regarderait quelqu'un se moquant de lui, avec un air de doux reproche et de menace lointaine. « Ah, vous riez, vous manquez de charité. Ce n'est pas bien, mais un jour vous le regretterez. Il sera trop tard alors. » « La vie, dit Lesca avec amertume, nous a séparés quand nous étions jeunes. Elle nous réunit quand nous sommes vieux. » Émilie leva la tête avec brusquerie. « Assez, je t'en supplie. Tu ne penses pas un mot de ce que tu dis. Tu t'écoutes parler et il faut que je t'écoute aussi. C'est grotesque. » Il leva les paupières avec lenteur, comme ces gens qui voudraient avoir trouvé ce qu'ils vont dire avant que leur regard rencontre celui de leur interlocuteur. « Voyons, Émilie, dit-il enfin. Dès que tu parles comme cela, tu sais bien que tu me mets hors de moi, et tu recommences chaque fois. Dès que je parle comme cela, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Comme quoi? Je parle toujours de la même façon. Je ne te comprends pas. » Une sorte de vernis glacé brillait dans les yeux d'Émilie. « Tu me comprends très bien, Maurice, c'est extraordinaire. Pourquoi, je me le demande, pourquoi ne peux-tu pas être naturel? Tu ne regrettes rien, tu n'as rien à regretter, moi non plus. Alors, alors ?» Il ne répondit pas, il se frotta le visage de ses deux mains allongées, comme pour effacer toutes ses paroles, afin de revoir les choses avec fraîcheur. Puis il dit, avec cet apparent oubli auquel les hommes bienveillants font croire quand ils mettent une offense sur le compte d'un mouvement d'humeur, « Quand je serai riche, Émilie, il se produira, comme par hasard, un grand changement. Nous nous entendrons alors, car je vais être riche, Émilie. » Riche, le mot est un peu fort, car je vais avoir de l'argent, un peu d'argent, Émilie. » Je suis contente pour toi. » Il parut ne pas entendre cette réflexion ironique. « Tu n'as pas la curiosité de savoir ce que je vais faire quand j'aurai cet argent ? » demanda-t-il. « Tu feras ce que tu voudras. » « Ma vie ne changera pas, continua-t-il, du moins en apparence. J'irai voir Petch comme par le passé. Je préparerai moi-même mes repas comme par le passé. Comme par le passé. Pas mal, n'est-ce pas? Mais je ferai aussi des choses extraordinaires. » « Tant mieux, dit Émilie. Des choses que tu ne soupçonnes pas. » Lesca s'échauffait. « Tu ne me connais pas, Émilie. La destinée nous a tenus éloignés trop longtemps. Et quand elle nous a réunis, j'étais dans un mauvais moment. Tu ne peux pas te faire une idée de ce que je suis d'après ce que tu vois aujourd'hui. » « Tu ne vois rien. Tu ne vois qu'un vieil homme fatigué, réduit à l'impuissance. Mais attends, quand j'aurai l'argent dont je te parle, tu changeras d'opinion sur moi, je te l'assure. » « J'espère que tu m'en donneras. dit Émilie avec un petit rire affecté. « Ça, non, ne compte pas sur moi. Je ne te donnerai pas d'argent. Il ne faut jamais donner d'argent. »« Je m'en doute, dit-elle avec le même rire. « J'aime mieux te dire que je ne t'en demanderai pas. » Lesca posa son chapeau sur la table. Tout à coup, il l'écrasa de sa main. « Vieillerie, dit-il, les lèvres rentrées. Vieillerie de fripier. » « Voilà, ça recommence déjà. » « Pas plus à toi qu'aux autres, » continua Lesca. « Personne ne touchera un centime. » Émilie se leva. « J'aime mieux te laisser, » dit-elle. « Parfait, parfait. Écris à ton fils, à ton cher fils. Il y a si longtemps, n'est-ce pas, que tu ne lui as pas écrit. » Émilie se retourna. « Ne parle pas de mon fils, parle de tout ce que tu veux, mais pas de lui. »« C'est un pauvre imbécile, » dit Lesca. Émilie poussa un cri. Durant un instant, elle resta immobile. La colère l'avait envahie. Elle voulait frapper son frère. Mais comment ? Elle se mit à trembler, puis brusquement, elle courut dans sa chambre.